Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein, comme tous les samedis. Dans un instant, retour sur les temps forts de la semaine avec le duel. Et puis, le débat aujourd'hui. Et si la laïcité était d'abord la victime d'un oubli et même d'une amnésie collective, amnésie sur l'histoire qui a donné naissance à la loi de 1905. Cette semaine se tenaient les états généraux de la laïcité organisés par la ministre Marlène Schiappa. Débat inutile ou superflu pour les uns, indispensable pour les autres, la question a fait polémique. Mais s'il fallait d'abord et avant toute chose rappeler les faits, enseigner cette loi que tout le monde évoque sans souvent en connaître le contenu ni le contexte. Et s'il ne fallait pas tout simplement commencer par un cours d'histoire pour pouvoir défendre ce qui est la pierre angulaire de notre République. C'est ce que fait l'historien Patrick Veil dans un livre passionnant de la laïcité en France, livre qui paraît aux éditions Grasset, livre engagé mais qui rappelle l'essentiel, à savoir l'esprit de cette loi de 1905. La mémoire, l'histoire, l'oubli de ce qui fonde la laïcité. On en parlera avec Patrick Veil dans une vingtaine de minutes, mais d'abord le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour. Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va plonger directement dans le vif du sujet. Retour sur l'un des temps forts de la semaine et pour commencer.
On aura investi près d'un milliard et demi dans les locaux et sur les voitures grâce au plan de relance. Ce seront 50% des véhicules qui pourront être renouvelés. Je sais que c'était très attendu et le ministre s'est beaucoup engagé là-dessus.
Le chef de l'État, le président de la République, qui était lundi matin au commissariat central de Montpellier, où les policiers témoignaient de la hausse des violences qu'elles viennent des trafiquants de drogue ou de manifestants devenus bien plus agressifs depuis le mouvement des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, qui a voulu montrer son engagement à lutter contre non seulement les narcotrafiquants, mais aussi à améliorer la sécurité du quotidien, la sécurité qui s'annonce comme l'un des enjeux clés de la prochaine campagne présidentielle et bien sûr une intervention du président de la République au début d'une semaine qui se termine avec une attaque terroriste et l'assassinat d'une fonctionnaire de police à l'arme blanche dans le commissariat de Rambouillet. Natacha Polony, comment avez-vous vu et perçu et analysé la volonté du président de la République de s'emparer de ce thème de la sécurité, d'en faire un enjeu et un enjeu important dès aujourd'hui?
Alors, on peut évidemment n'y voir que une posture électoraliste. Et de fait, il y a cette dimension de calcul dans le choix d'Emmanuel Macron. Indéniablement, il lit le paysage politique, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais d'une façon très claire. Pour l'instant, la gauche ne représente pas un danger puisqu'elle est fracturée, fragmentée, aucune personnalité ne se détache. Il lui faut donc aller capter cet électorat de droite, qui est un électorat d'ailleurs un peu plus âgé, qui a plus tendance à voter que l'électorat plus jeune et qui est sensible aux questions de sécurité. Xavier Bertrand a tapé comme il le pouvait sur ce plan-là qui est le point faible du bilan d'Emmanuel Macron. Alors il y a la réclusion de sûreté pour les terroristes, il y a les 20 000 places de prison. Et Xavier Bertrand a employé ce terme hautement symbolique de France orange mécanique puisque ça reprend le titre d'un livre pour le moins contesté et contestable de Laurent Oberton. Donc il y a là évidemment un bras de fer politique, mais il n'y a pas que ça. Parce que de fait, la question de la sécurité, c'est une question qui préoccupe largement les Français et à juste titre, dans la mesure où c'est un des principes fondamentaux d'acceptation du contrat social, l'État doit la sécurité à ses citoyens et il y a ces faits qui montrent que les tensions montent dans notre société. Certes, il y a des baisses sur certains plans statistiques, mais les violences gratuites, les violences aux personnes augmentent et cela inquiète. Alors la question, c'est que justement que les causes en sont multiformes. Emmanuel Macron, dans son interview au Figaro, a pointé l'air de rien, la justice. Et c'est vrai que la question ensuite du suivi judiciaire et de la fermeté des juges est un classique et une question qui se pose depuis longtemps. Il y a aussi On le voit avec l'assassinat de la policière de Rambouillet, une question sur ces personnes accueillies en France. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un Tunisien présent sur le territoire français et qui s'est radicalisé. La question est de savoir comment on assure la prévention face à ce type de population.
Ouais.
Il y a la question de la drogue qui est revenue sur le premier plan avec un revirement spectaculaire d'Emmanuel Macron, et puis une question d'éducation. Donc c'est tous ces sujets-là ensemble, c'est pour ça que c'est un sujet éminemment complexe.
Gilles Finkelstein.
Oui, il y a eu, je crois, une vraie offensive d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là, parce qu'il y a eu le déplacement à Montpellier que l'on vient d'entendre, mais il y a eu aussi une longue interview le même jour dans Le Figaro. C'est, vous avez dit, Ali Badou, un des enjeux clés de l'élection présidentielle. C'est en effet une des préoccupations majeures, non pas la préoccupation, mais une des cinq préoccupations majeures telles qu'elles ressortent de l'enquête que Le Monde, le Cevipof, Ipsos et la Fondation Jean Jaurès le sortent aujourd'hui.
On va en parler.
Avec le climat, avec le pouvoir d'achat, avec l'immigration, avec la santé et la délinquance. C'est une préoccupation de surcroît qui est une préoccupation croissante. On peut avoir de nombreux débats pour savoir quelle est l'évolution des indicateurs sur la sécurité. Emmanuel Macron lui-même parle dans cette interview d'une forte augmentation des violences sur les personnes. Et j'ajoute que c'est une préoccupation légitime. Le droit à la sécurité, ce qu'on appelait autrefois le droit à la sûreté, c'est pas une question de gauche ou une question de droite. Et d'ailleurs, quand on regarde même le bilan sur 20 ans, la gauche a souvent créé davantage de postes dans la police que ne l'a fait la droite. La question qui se pose, qui est intéressante je crois, est de savoir pourquoi il y a cette offensive d'Emmanuel Macron aujourd'hui. La première raison, sans doute, c'est parce que c'est un des points de faiblesse. La confiance dans le gouvernement sur les questions de sécurité est très faible, elle est à 17%. Le bilan sera sans doute... Par exemple, le nombre de créations de postes, il est vraisemblable qu'on sera en dessous des engagements qui avaient été pris. J'ajoute qu'il y a un malaise des policiers qui est important. Il y a eu le fiasco de l'article 24, le Beauvau de la sécurité est décevant. Il y a eu ce jugement de Viry-Châtillon qui était pour beaucoup de policiers révoltant. Et puis enfin... Il y avait, Natacha Polony l'a évoqué, une offensive de la droite et notamment de Xavier Bertrand avec ses propositions. Or, si la question de la sécurité n'est pas une question de gauche ou de droite, en revanche, c'est une préoccupation beaucoup plus forte à droite qu'à gauche. J'étais très frappé dans la même enquête quand vous regardez dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot ou de Anne Hidalgo, il n'y a que 10% de ces électeurs qui le placent parmi leurs trois principales préoccupations. On monte à 32% dans l'électorat de Xavier Bertrand, à 47% dans l'électorat de Marine Le Pen. Donc, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, mais en revanche, c'est beaucoup plus une préoccupation de droite que de gauche. Et
oui.
Tout ça est symptomatique d'un moment dans lequel il n'y a pas de proposition d'Emmanuel Macron, mais il y a une affirmation d'une position, et on voit que cette position, eh bien, elle est évidemment très différente des positions qui étaient les siennes au même moment dans la campagne présidentielle de 2017.
Natacha.
Gilles a tout à fait raison de distinguer position et proposition. Parce que, je le disais tout à l'heure, le problème est que cette question de la sécurité hante les campagnes électorales depuis déjà 20 ans. Et que, de fait, on ne peut pas considérer que qui que ce soit ait porté un bilan considéré par les citoyens comme bon sur ces questions-là. Et ça nécessite, du coup, de se poser la question des propositions qui seraient à faire pour qu'il y ait une chance de répondre en partie au problème. Évidemment que ça prouve que le problème est complexe, je le disais, il est multiple, il s'appuie sur, enfin, il repose sur différents phénomènes. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait une prise en compte, j'allais dire, complète, globale, synthétique.
Malgré le recrutement de 10 000 policiers supplémentaires d'ici 2022, malgré le 1,5 milliard d'euros investis dans les locaux et les véhicules de police ?
C'est pour ça que je soulignais le fait que ça, il y a la question de la drogue, il y a la question de l'éducation qui commence très tôt et qui permet de former le sens civique, il y a la question du rapport entre police et justice, il y a la question de la gestion des migrants en situation régulière ou irrégulière et de la façon dont on prévient la radicalisation. Ça s'est vu dans énormément d'affaires ces derniers temps de terrorisme. Toutes ces questions-là se mêlent. Et ce n'est pas seulement une question de chiffres. Et Emmanuel Macron est prisonnier d'un bilan qui est un bilan en termes de chiffres, mais il n'arrive pas à appréhender l'ensemble de ces questions. Et surtout, il est prisonnier d'une part de la gauche qui aujourd'hui a fait des violences policières l'un des points essentiels de son discours, alors même que, de fait, les violences contre les policiers ont augmenté. Et c'est tout le paradoxe de cette question, c'est-à-dire que dans une période où le lien social et le lien politique se dénouent petit à petit, où la communauté politique s'effrite, la capacité des citoyens à percevoir les policiers comme à leur service et non pas comme les représentants d'un pouvoir ennemi est quelque chose de très difficile. Et c'est cela, à mon avis, qui est aussi une des clés du problème.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle et qu'il est de mon immense responsabilité de rassurer les Français. Et il me reste un an pour leur expliquer exactement ce que je compte faire. Et je veux qu'ils soient rassurés parce que je pense profondément que le projet que je porte est un projet non seulement raisonnable, mais c'est un projet qui va redonner du sens à la politique et surtout qui va redonner du lien au peuple français.
Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, le 11 mars dernier. Nous sommes aujourd'hui un an, jour pour jour, avant le premier tour de l'élection présidentielle et l'occasion donc de s'interroger sur le paysage politique et idéologique de notre pays. Il y a eu cette grande enquête publiée dans Le Monde et menée par la Fondation Jean Jaurès, Ipsos et le Cevipof dont vous parliez, Gilles Finkelstein. Et c'est l'une des conclusions d'ailleurs de cette enquête. Oui, la victoire de Marine Le Pen est possible. On a envie de vous demander, Gilles, avant de passer la parole à Natacha, quoi de nouveau sous le soleil ?
Écoutez, il y a 5 ans, nous étions dans une situation dans laquelle, à l'inverse, je crois que la victoire de Marine Le Pen était impossible. En tout cas, moi, c'est l'analyse que j'avais faite à l'époque et que j'avais écrite. Parce que le rejet était plus fort et parce que la stratégie de Marine Le Pen, qui était celle d'une jonction des colères autour de la sortie de l'euro, me paraissait une mauvaise stratégie. Je pense qu'on est passé d'une situation dans laquelle cette victoire était impossible à une situation dans laquelle elle est improbable. Et c'est une grande différence. Improbable, ça veut dire malgré tout que ce n'est pas la probabilité la plus forte, loin de là. Quand Marine Le Pen dit dans le petit son qu'on entendait qu'elle veut rassurer, elle a encore beaucoup de travail à faire et elle est loin, loin de l'avoir fait. Elle continue d'être considérée par une grande majorité de Français comme un parti, comme une dirigeante d'extrême droite. Les Français ne veulent pas l'élire. Mais ce n'est plus impossible au sens où il y a une forme de dédramatisation, d'installation de Marine Le Pen dans le paysage. Il y a dans une certaine partie de la gauche une forme d'équivalence qui est tracée, équivalence que je crois fausse, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et on le voit au travers des intentions de vote de deuxième tour, dans lesquelles l'écart est beaucoup plus faible qu'il ne l'était en 2017, oui. Que ce qui était impossible devient seulement improbable. Improbable, c'est beaucoup, mais improbable, ce n'est pas impossible.
Et pourtant, Gilles, vous nous avez souvent mis en garde contre ces sondages de deuxième tour qu'on publie aujourd'hui et à des mois encore avant l'élection présidentielle. Quelle est la fiabilité donc de ces études-là ?
Alors, je vais vous mettre en garde non seulement contre les sondages de deuxième tour, mais y compris contre les sondages de premier tour. Parce que ce que l'on sait aussi, c'est que tous les sondages qui sont faits un an avant l'élection présidentielle depuis maintenant plus de 20 ans n'arrive pas à donner les finalistes. Donc ce n'est pas une prédiction, c'est un état de l'opinion un an avant. En revanche, On peut quand même dire que le dispositif que nous avons mis en place, parce qu'il suit non pas 1000 Français, mais 10 000 Français, donc c'est un très gros échantillon, et que ce sont les mêmes Français que l'on va suivre pendant plus d'un an, est un dispositif qui est plus robuste, ou en tout cas qui apporte davantage de finesse d'information qu'un sondage traditionnel.
Natacha ?
Je pense que la stratégie de Marine Le Pen ressort assez bien dans l'extrait que vous avez passé, où elle présente son projet comme raisonnable. C'est assez extraordinaire d'entendre le terme raisonnable dans la bouche d'une dirigeante d'un parti qui reste un parti d'extrême droite émanant d'une histoire qui est tout de même une histoire assez problématique. Pourquoi fait-elle cela ? En fait, elle a bien compris qu'en effet, elle peut potentiellement être élue si il n'y a pas de phénomène de barrage. J'ai été frappée dans l'étude en question, dont parle Gilles, des équilibres, puisque les questions qui sont posées à propos des différents dirigeants politiques est de savoir s'ils sont jugés inquiétants, s'ils ont une stature d'homme politique, enfin de chef d'État, si on pense qu'ils sont proches des gens.
Oui.
Et certes, Marine Le Pen est de loin celle qui est jugée comme la plus inquiétante. Mais ce qu'on observe, c'est que finalement, elle est jugée plus que les autres comme qu'approche des gens comme nous, même si cette expression, qui est l'expression posée par les sondeurs, est en elle-même particulière. Mais il y a donc en effet ce phénomène de normalisation qui fait non pas qu'elle peut susciter une envie ou un enthousiasme, je pense qu'il y a une majorité de Français qui ne veulent pas l'avoir au pouvoir. En revanche, le phénomène de barrage risque de ne pas se produire. Alors après, la question c'est de savoir comment on analyse l'évolution des envies des Français, de leurs attentes et du paysage politique. Par exemple, il y a une chose moi qui m'horripile, c'est quand j'entends en permanence dire que la France est à droite, que la France a basculé à droite, que voilà. Qu'entend-on exactement par là ? Nous venons de dire que la sécurité était une question qui concernait autant la gauche que la droite. La gauche a pu l'abandonner, hélas, pendant des années, comme elle a abandonné beaucoup d'autres sujets. Mmh. L'écologie est une préoccupation majeure des Français. On la met à gauche ou à droite ? Donc vous voyez, cette idée qui s'installe que la France basculerait à droite joue comme une prophétie autoréalisatrice qui laisse penser que c'est naturel, on va glisser petit à petit. Or, je crois que c'est une fausse perspective et que ça devrait au contraire inciter la gauche à récupérer certains sujets qu'elle a abandonnés alors qu'ils font partie de son histoire. Je pense à des sujets comme la question de la nation, comme la question de la laïcité qu'elle a abandonnée pendant trop longtemps. Voilà, tout ce genre de sujets-là.
Gilles.
Alors d'abord, juste en passant, deux désaccords avec Natacha. Le premier, sur la droitisation, on l'a déjà évoqué plusieurs fois ici. Quand on regarde la manière dont les Français eux-mêmes se positionnent, et c'est fait à nouveau dans cette enquête, on voit que par rapport à il y a 5 ans, par rapport à il y a 10 ans, le point moyen est beaucoup plus à droite qu'il ne l'était. Et deuxième désaccord, autant je crois qu'il y a des sujets sur lesquels la gauche a maintenu un écart entre sa pratique et son discours, par exemple sur les questions d'immigration, qui sont des questions qu'elle a refusé de penser pendant longtemps, autant je ne crois pas qu'on puisse lui faire ce reproche sur les questions de sécurité. En revanche, le point sur lequel je voudrais insister est le suivant, parce qu'on a l'impression qu'on est face à un scénario inéluctable d'une répétition de l'élection présidentielle de 2017. C'est un scénario qui est possible. Il est possible que la surprise de cette élection et qu'il n'y ait pas de surprise. Marine Le Pen a un électorat qui est fidèle. Emmanuel Macron, on le voit dans cette enquête, non seulement a des intentions de vote qui sont flatteuses, mais a un socle aussi, un bilan qui, malgré tout, est jugé positif par près de 40% des Français. Il garde une image de réformateur. Donc on peut avoir cette répétition et on peut avoir les mêmes finalistes et on peut avoir le même vainqueur.
C'est d'ailleurs, pour le moment, le scénario qui écrase
absolument
tous les autres.
Absolument. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est le favori de cette enquête. Mais le point sur lequel je voudrais insister est le suivant, c'est ce qui devrait nous guider un an avant, c'est un principe d'incertitude. Pour les raisons liées à l'histoire que je viens d'évoquer, mais même pour l'analyse du présent. On ne sait pas ce que sera l'intérêt des citoyens pour cette élection et donc la participation. On ne connaît pas ce que sera l'offre politique, c'est-à-dire qui seront à la fin les candidats. Quelle sera la configuration à gauche ? Quelle sera l'identité du candidat de la droite ? Est-ce qu'il y aura une candidature surprise ? Et on ne sait pas non plus, et c'est un enjeu déterminant, quel sera le terrain d'affrontement? Sur quel thème va se nouer cette élection? On voit qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, 5 sujets qui sont d'égale importance, mais ils ne sont pas d'égale importance pour chaque électorat. Et un des grands enjeux de cette campagne va être d'essayer pour chaque candidat d'amener la campagne sur le sujet qui lui est le plus favorable. Donc, à ce stade, le principe qui domine, c'est un principe d'incertitude et ce n'est pas le caractère inéluctable de la répétition.
Et on passe au dernier sujet du duel.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer le football, sauver le football, qui vit une période très compliquée. L'UEFA a mis en place un format qui, pour nous, ne fonctionne pas. Je vous le dis, aujourd'hui, avec les revenus actuels de la Ligue des Champions, on meurt. Il y a de moins en moins d'audience, de moins en moins d'argent. On mourra tous, les grands, les moyens, les petits. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est sauver le foot pour pouvoir vivre les 20 prochaines années sereinement.
Le foot et la Super League, c'était Florentino Pérez, le président du mythique Real Madrid, qui s'exprimait cette semaine et il défendait envers et contre tout son projet de Super League de football, projet qui ne verra sans doute pas le jour, mais l'occasion pour le dirigeant du Real de taper sur l'UEFA et sur le format de la Ligue des Champions. Vous vouliez y revenir l'un et l'autre. Natacha, que raconte cette histoire qui a alimenté l'actualité cette semaine, Super League créée puis ensuite déclaré mort-né après des polémiques sans fin autour de ce projet.
Oui, et puis après des tractations en coulisses, puisque quand on regarde un petit peu la façon dont ça s'est passé, on voit que le président de la FIFA n'est pas très très clair par rapport à celui de l'UEFA sur cette question de Super League, que en gros Gianni Infantino, qui a l'intention, enfin qui rêve d'une sorte de Coupe du Monde des clubs, serait ravi d'avoir cette sorte de Super League européenne pour préparer sa Coupe du Monde des clubs. Oui. Bref, on est là dans des rapports de force, assez brutaux, qui en fait nous racontent le foot business dans ce qu'il a de plus effrayant. Et la question est de savoir comment on évite cette bascule qu'on voit depuis, en gros, alors en Europe depuis sans doute, la date symbolique, c'est l'arrêt Bosman de 1995 qui supprime les quotas de joueurs étrangers dans les clubs et qui donc permet un marché dérégulé des joueurs, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a une espèce de folie du business qui emporte le football européen. La question est de savoir comment on en sort, en fait. Oui. Comment on en sort face à une ruine potentielle, parce que de fait, les négociations sur les droits du football ont montré à quel point, en fait, le public ne suit plus. L'argent n'est plus suffisamment là pour payer cette folie. Mais pour l'instant, aucune solution ne se dégage que cette fuite en avant qu'on voit et qui peut ressurgir à n'importe quel moment.
Gilles Finkelstein.
Oui, je trouve que ce sujet est passionnant, et pas seulement passionnant pour ceux qui s'intéressent au foot. Je crois qu'il est passionnant pour tout le monde. Sur cette tentative, en fait, c'est une dérive classique du capitalisme depuis des décennies et même davantage, qui cherche à essayer de réduire la concurrence pour aller vers le monopole, qui cherche à réduire le risque pour dégager une rente, et qui, lorsqu'il est dans une impasse financière, ce qui est le cas d'une situation dans laquelle les dépenses augmentent considérablement, les recettes diminuent, les déficits sont considérables, il choisit la fuite en avant, c'est-à-dire de maximiser les profits et de réduire l'incertitude. Donc là, on a quelque chose de très classique, et c'est pas ça en réalité le plus intéressant. Je trouve le plus intéressant, c'est la manière dont s'est organisée la résistance et la vitesse à laquelle ce projet a explosé en l'espace de 48 heures. Vous avez eu la conjonction des réactions des supporters dans des clubs dans lesquels les supporters, ça veut dire quelque chose, la réaction des entraîneurs, y compris des entraîneurs qui étaient salariés des clubs qui participaient à cette ligue, je pense à l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, la réaction des institutions européennes très fortement et internationales avec ses arrière-pensées, qui menaçaient de sanctions extrêmement lourdes, et des réactions politiques, ça a été vrai en France, ça a été vrai également très fortement au Royaume-Uni avec Boris Johnson. Et vous avez eu cet alignement de réactions dans lequel se mêlent à la fois des intérêts financiers, des intérêts politiques et des convictions au nom de la morale, à la fois un peu de la morale commune, le sentiment que là, trop c'est trop, mais surtout au nom de la morale sportive, avec cette idée que était en train d'être rompu l'équilibre entre le sport et le spectacle, et que le spectacle c'est bien, mais qu'il faut quand même qu'il y ait un peu la glorieuse incertitude du sport.
Vous ne dites pas ça parce qu'il n'y avait pas de club français, et notamment pas le PSG dans ce projet de Super League.
Non,
je te dis en souriant.
Je pense que le Paris Saint-Germain a extrêmement bien joué en ne participant pas à ça, qu'il l'a fait pour des raisons qui tiennent aussi à la Coupe du Monde au Qatar de 2022, mais que c'était un très bon investissement et un très bon choix tactique. Je termine juste d'une phrase sur l'avenir pour dire que rien n'est réglé. On était au bord du gouffre, on a évité de faire un pas en avant, c'est déjà bien, mais on reste au bord du gouffre et quand on regarde le projet de réforme de la Ligue des Champions de 2024, eh bien, on se dit que le monde d'après, eh bien, ça fait penser à la formule qu'utilisait Michel Houellebecq, ça sera le monde d'avant en un peu plus pire. Eh bien, c'est encore la situation dans laquelle nous risquons d'être.
Merci. Il est midi et demi sur France Inter et à suivre dans le grand face-à-face le débat avec l'historien Patrick Veil.